Rappelez-vous de l'orage, du dernier orage que vous avez vécu. Un orage avec des gouttes qui paraissent descendre de plus haut que le ciel. Et puis, elles tombent, elles éclatent sur le sol. Elles font carrément des trous dans une terre dure, dans une terre ferme. Elles passent du jaune au rouge. Il y a cette impression que immédiatement des ravines vont se former et qu'on a envie, même si on est trempé, vous êtes toujours entre 1500 et 2000 mètres d'altitude. Il fait peut-être un peu plus frais qu'à l'ordinaire dans des pays qui peuvent être tropicaux. Mais en l'occurrence, ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point cette eau est capable de ronger la terre. Et il y a toujours, ce sont les souvenirs d'enfance, ce sont les petites aspérités, un morceau de bois, une pierre, et puis tout à coup, un morceau d'argile. Vous vous approchez et puis vous trouvez un petit bol. Oh, moi je l'appelle un brûle-parfum. C'est minuscule, c'est gros comme une grosse pièce. C'est arrondi à l'intérieur, c'est lisse parce que dès que vous l'aurez touché, vous sentirez cette qualité qui correspond. Vous savez, quand on désire avoir de l'argile, lorsque l'argile est travaillée au départ, qu'on veut qu'elle soit vraiment lisse après la cuisson, on prend un brunissoir, ou plutôt une pierre bien lisse, et puis on frotte doucement sur cette céramique, en arrondi, on descend dans le creux, on reforme ce que les doigts ont déjà formé, on lisse tout cela, et puis ensuite vous prenez un pinceau raffiné, et vous commencez à faire, pourquoi pas, un petit colibri, une fleur, un motif. Il y a de la couleur crème, il y a du rouge, parfois un tout petit peu de noir, et dessous, il y a trois tout petits pieds qui sont recourbés comme des petits becs au bout, comme s'ils étaient posés comme sur des pattes. L'objet fait peut-être 5 à 6 cm de haut. Il est apparu par hasard dans l'eau boueuse, vous l'avez retiré. C'est un objet tarasque, c'est un objet du Michoacán, c'est un objet d'une culture que tout le monde a oubliée. Les seuls qui connaissaient cette région, c'étaient les Aztèques, qui ont toujours désiré lutter contre les Indiens de cette zone. Les Tarasques, c'est beaucoup plus que l'État de Michoacán. C'est un royaume qui existait déjà à l'arrivée des Espagnols. Encore, déjà depuis quelques siècles, il avait survécu et il occupait une partie très importante de cet État que je mentionnais, l'État du Michoacán, dont Morelia est la capitale. Et puis, au départ, on prétend que c'était quelque chose qui était beaucoup plus étendu. Il y a eu des tentatives, bien sûr, des tentatives très fortes de la part des Aztèques pour parvenir à vaincre cette puissante peuplade. Les Tarasques, ceux qu'on appelle aussi les Purépecha, il y a des noms curieux. Eh bien, ils sont répartis sur trois petits îlots de l'État de Michoacán, une région qui est lacustre. Tout à l'heure, en voyant l'eau couler, je m'étais retourné et je voyais à travers les gros nuages bruns, non seulement une zone montagneuse, mais un lac étal, un lac sublime, le lac de Pátzcuaro. Et devant moi, cinq constructions étranges, les yacatas de Tsintzuntzan. Quand on parle de Tsintzuntzan, c'est une capitale. Tsintzuntzan, ça fait un peu chinois, c'est vrai, les Tarasques ont une langue étrange. Il y a Huartzio, il y a Santa Fe de la Laguna, ça c'est un nom bien espagnol. Il y a aussi un village que j'adore, il y a un marché, il y a de la poterie, qui rappelle un peu celle que je viens de trouver tout à l'heure dans la boue, et qui effectivement a quelque chose de précolombien aussi. Un marché qui, chaque semaine, se prolonge pendant des heures, comme cela, jusqu'à midi, jusqu'à 2h de l'après-midi. Et en fait, on atteint ce village par une route tortueuse qui est là-bas, au fond du lac, tout à fait à l'opposé de Tsintzuntzan, Erongarikuaro. Erongarikuaro, un nom qui chante aussi. Et puis, il y a ces petits îlots qui se trouvent au centre même de cette extraordinaire lagune, dont je dirais que l'île principale, tout le monde la connaît, tout le monde en a entendu parler un jour, c'est Janitzio. Janitzio, ça évoque la fête des morts, ça évoque ces grandes fêtes qui ont lieu dans la nuit du 1er au 2 novembre, lorsque tous les cimetières de ce petit îlot sont couverts d'offrandes, de bougies, de fleurs. Vous savez, les œillets d'Inde que l'on dépose ainsi pour recouvrir complètement le monticule. Et puis, il y a aujourd'hui des milliers de touristes qui viennent à Janitzio avec un bateau et qui désirent voir un peu comment fonctionnent ces villages qui sont aux alentours. Il y a 13 villages, il y a quelques ranchos qui sont bâtis aussi dans une étroite vallée qu'on appelle la Cañada. La Cañada, c'est vraiment vraiment le canyon, en fait. C'est une vallée qui fait une dizaine de kilomètres. Elle est un peu plus loin. Et puis sur les hauts plateaux, lorsqu'on rejoint cette terre du Michoacán, lorsqu'on arrive, il y a surtout des volcans. Les volcans de cette Sierra Tarasque. Vous l'avez compris, on est au Mexique. On est dans une zone assez curieuse qui est couverte de forêts. Il y a des conifères un peu partout. Et on se trouve dans cette zone perdue, dans l'endroit où il y a peut-être le plus fort pourcentage d'Indiens qui parlent encore cette langue ancestrale qu'est le Tarasque pour les Pecha. Alors, à l'origine, d'où viennent ces Tarasques? Parce que je disais bien, c'est une sorte d'îlot. Il y en a même trois comme ça composés en plein cœur de ce Mexique qu'on connaît pour étant très colonial finalement. Mais leur langue, eh bien, elle pose plusieurs énigmes. Les chercheurs ont tenté de reprendre par la linguistique les différents chemins qui auraient pu permettre à cette langue de se développer. C'est un idiome qui n'appartient à aucun autre groupe linguistique que l'on connaît aujourd'hui au Mexique. Il y a pourtant... Je me suis amusé, lorsque je faisais mes études à l'école d'anthropologie sur place, à rechercher des similitudes phonétiques avec des langues que je connaissais déjà du sud, mais quand je parle du sud, c'est de l'Amérique du Sud. Oui, on a l'impression qu'il y a quelque chose de péruvien dans cette langue. On sait d'ailleurs que les habitants qui vivaient ici au Michoacán étaient capables de travailler le cuivre. Ils avaient appris à peu près au XIIe siècle à travailler aussi les métaux précieux, l'or, l'argent. Alors, il y a quelques ressemblances quand on voit les objets d'orfèvrerie, quand on parle de ces petites céramiques que j'évoquais tout à l'heure. On a l'impression qu'on trouve quelque chose qui ressemble aux cultures précolombiennes du Sud, justement, beaucoup plus loin que Panama, beaucoup plus loin que la Colombie, carrément le Pérou. Alors, on pense qu'il y a eu certainement... on ne sait pas, peut-être au 10e, 11e, 12e siècle, des contacts, des échanges, des sortes de jalons qui seraient passés comme cela d'un endroit à l'autre, d'un radeau à l'autre, d'une caravane à l'autre, jusque vers ces espèces de contrées extrêmement lointaines. Alors, quand on pense aux informations qu'on possède à propos de ces Tarasques, eh bien, il y a un livre que j'ai relu dernièrement qui s'appelle « Les relations de Michoacán ». Ces relations, elles ont été écrites en castillan, c'est-à-dire en langue espagnole, aux alentours de 1538-1539. Et on sait que ceux qui ont repris ces chroniques ont reçu tous les messages de la part des derniers chefs indiens, des notables qui vivaient ici dans le Michoacán. Alors, d'après ces documents, au moment où les Tarasques arrivent dans cette extraordinaire région lacustre de Pátzcuaro, moi je me rappelle la première fois, où je suis parvenu, on part de Mexico, de la capitale, et puis on fait une route infinie, on monte dans un endroit qu'on appelle Mil Cumbres. Mil Cumbres, rien qu'en traduisant cela en français, les mille sommets, on a une impression d'infinité. Il y a partout des conifères, il y a ce bruit étrange dans les pins, il y a aussi cette façon d'avoir des horizons qui finissent par changer de bleu, de passer de ce vert intense au premier plan jusqu'à ces bleus de plus en plus pâles. On a souvent des visions qui vont jusqu'à 80-90 km. Et puis finalement, on s'approche de cette région plus confortable. On sent à l'aspect des villages, à l'aspect des petites églises coloniales, que les choses ont changé. Le Michoacán, c'est l'endroit qui fait rêver tout un chacun. C'est un endroit confortable. Et on arrive d'abord dans un hameau qui sent déjà le lac. C'est Quirigua. Et Quirigua, c'est un endroit assez curieux où en principe il y a des croisements de routes, celles qui vont repartir vers le nord du lac, celles qui vont venir vers Tsinsunsan et ensuite sur Pátzcuaro. Et bien là, Quirigua nous rappelle en fait le personnage qui est peut-être le plus important de la région, qui s'appelle Quiroga. Quiroga était un évêque, on en parlera tout à l'heure. Et là, il y a un marché. Il y a un marché permanent où on vend à la fois des choses de bois, des objets d'artisanat, du cuivre, comme on évoquait tout à l'heure. Il y a Santa Clara del Cobre qui produit ceci. Chaque village de la région de Tsinsunsan, ce serait plutôt la paille, enfin les objets de paille qu'on peut mettre sur un arbre de Noël ou en décoration sur les portes. Et dans cette région, eh bien, les Tarasques se sont établis et on pense qu'au départ, ils étaient simplement des chasseurs, ils étaient des nomades et qu'ils vivaient un peu comme les tribus qui venaient du nord. Là, je pense aux Chichimecs, enfin ceux qu'on appelle les chiens sauvages, ces fameux Indiens un peu peau rouge, un peu comme on imaginerait le Sioux ou l'Apache, qui seraient venus de ces terres beaucoup plus désertiques, peut-être de la partie ouest, nord-ouest du Mexique, peut-être même plus haut, carrément aux alentours de la frontière des États-Unis. Et leur ancienne culture de ces Tarasques, je dirais qu'elle présente des analogies avec toutes ces tribus qui parlent aujourd'hui encore le Nahuatl, qui parle cet idiome qui va donner l'aztèque et le mexica de la région de Mexico City, ou de Mexico Tenochtitlan, si vous préférez. Alors les Tarasques, on sait qu'ils pratiquaient les sacrifices humains. Bon, on parle toujours dans ces chroniques de cannibalisme, ça c'est carrément sous la plume des Espagnols. Ils avaient des rituels, ils avaient une façon d'adorer des divinités qui étaient naturellement stellaires, un peu comme partout au Mexique. Ah, il y avait surtout l'étoile du matin. L'étoile du matin qui est un peu la messagère du soleil. Il y avait le feu aussi, qu'on appelle le Curicaweri. Et on pense que c'est certainement le plus ancien des dieux qui était vénéré par ces Tarasques. Et on sait en tout cas que les prêtres, chaque jour, devaient couper du bois pour alimenter une sorte de feu, un feu sacré. Et le privilège était considéré comme un honneur véritable, puisque même le roi des Tarasques, de temps à autre, allait couper ses bûches afin de sacraliser par son geste l'hommage à cette divinité. Alors, le feu, le soleil, c'était certainement les divinités les plus importantes de ce panthéon, mais il y avait aussi une très vieille déesse, c'est celle de la fertilité, parce que c'est une région qui est très riche, on sent que l'agriculture est présente partout, et Curabuweri, c'était un peu la mère de tous les dieux de la terre, et Curabuweri, elle incarnait à la fois, comment dirais-je, peut-être l'homme, enfin le corps de l'homme, le corps de la femme aussi, et on disait même qu'elle était capable de s'incarner, de pénétrer à l'intérieur de certains corps ou de certains bébés, et qui, lorsqu'ils étaient adultes, étaient tout simplement choisis, donc immolés, ils avaient été eux-mêmes choisis par la divinité. On disait que c'est elle qui les avait choisis pour être sacrifiés, et finalement ça rendait service aux prêtres et naturellement aux autorités, parce que quand un culte démarre comme cela, avec cette idée sacrificielle, eh bien, il faut bien avoir une raison de choisir celui-ci ou celle-là. Imaginez une nuit de pleine lune, vous êtes monté sur une de ces yakata que j'évoquais, ces cinq monticules. Oh, ce sont des pyramides en fait, ce sont des pyramides qui sont jointes les unes aux autres et qui ont une forme un peu comme des spirales, comme quelque chose qui monte doucement en forme arrondie vers le ciel. Elles ne sont pas très hautes, mais elles sont posées elles-mêmes sur une colline qui petit à petit grimpe jusqu'à devenir un sommet arrondi. Et lorsque vous êtes à mi-pente sur ces pyramides, en vous retournant sous la lune, eh bien, vous voyez ce lac. Et à l'intérieur, sur la surface même, quelques îlots. Alors c'est curieux de penser qu'il y avait un culte lunaire chez les Tarasques. Cette grande divinité s'appelait Charatanga. Charatanga, eh bien, on disait qu'elle faisait germer les plantes, bien sûr. On est agriculteur, je le disais tout à l'heure. On sent aussi que c'est quelque chose qui devait venir d'une époque extrêmement reculée, parce qu'on prétendait qu'elle avait même un trésor, cette lune, qui était conservée dans un lieu qui lui était dédié. Là, sur une de ces îles qu'on aperçoit en bleu marine sur le lac de Pátzcuaro. Et on lui offrait des cailles, les cailles qui courent dans ces conifères encore aujourd'hui, et puis des canards. Des canards, il y en a plein dans les roselières qui sont le long du lac. Ces canards qui eux-mêmes nous rappellent souvent par les céramiques ou les sculptures que les Tarasques aimaient l'eau. Et puis, on leur offrait à ces divinités, surtout à cette lune, les tout premiers fruits, les premières récoltes de la terre. Et je dirais que lorsqu'on pénètre dans une église, j'ai un souvenir. Je suis allé un jour à Tupátaro. Tupátaro, voilà encore un mot bien sympathique. C'est une église perdue en pleine campagne. Et j'étais en compagnie d'un restaurateur qui était lui-même le mari de celle qui avait fondé le musée ethnographique de Pátzcuaro. Quand on pénètre dans ce vieux bâtiment colonial, on sent à la fois l'odeur de la laque et du bois, parce que les Tarasques ont été certainement les artistes les plus extraordinaires. Vous savez, on prend simplement le tronc d'un arbre, on le coupe à la hache, et puis petit à petit on creuse une plaque de bois pour en faire un véritable plateau. Certains plateaux arrivent à 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20 de diamètre, avec les bords bien relevés, et puis on fait une bordure bien lisse. Ensuite, on creuse tout cela à coups de hachette et finalement, on commence à laquer le fond. On met des couches de laque extrêmement régulières. J'ai même l'impression d'avoir encore la paume de la main qui essaye de faire glisser cela avec ce côté. On finit par rougir sa propre paume à force de frotter sur la laque. On attend que cela sèche, on recommence, on en met encore une couche et puis ensuite, on gratte. On commence à gratter doucement, au départ avec un silex, peut-être avec une pointe d'obsidienne, cette pierre volcanique, et puis aujourd'hui avec un rien de métal. Et on creuse jusqu'à la limite même de ce qu'on a mis en plusieurs jours, en plusieurs semaines. Et après cela, on remplit avec une autre couleur, toujours avec la paume de la main. Tous les interstices, toutes les silhouettes, toutes les formes que vous aurez gravées vont se remplir une nouvelle fois. Puis ensuite, vous recommencez, vous grattez, vous mettez une autre couleur et encore une autre couleur. Et vous finissez par avoir un plateau scintillant par les motifs et en même temps lustré, lisse, comme le sont les plus belles lacs de Chine. Et ça, c'était vraiment l'art tarasque par excellence. Et Enrique a lui-même essayé de retrouver tous ces ingrédients de base pour faire ses lacs. Il a retrouvé même des pollens et des choses très curieuses, des cols, pour arriver à obtenir un résultat aussi fantastique et surtout ce velouté extraordinaire de ces lacs qu'on retrouve dans le musée de Pátzcuaro. Et Enrique, lui, est peintre. Il peint encore un peu comme le ferait Léonard de Vinci. Je veux dire par là qu'il broie lui-même ses couleurs, il va chercher ses pigments dans la campagne, il trouve une pierre colorée, des ocres, des noirs, des rouges. Il mélange tout cela, il utilise encore des huiles, ces huiles de lin, et puis il monte sur le toit pour préparer ses vernis. Quand je dis sur le toit, c'est parce que, à la façon de Vinci, comme s'il avait de vieux grimoires, et bien souvent il place ses huiles sous des plaques de verre afin que le soleil fasse son œuvre et épaississe cette matière afin qu'elle soit plus lustrée, meilleure sous son pinceau. Et puis on le voit en train de peindre sa Joconde, là je plaisante un peu, mais il peut passer des mois à jouer au Frangelico ou à retrouver des choses primitives. Et c'est avec lui que je suis allé à Tupátaro. À Tupátaro, quand j'ai pénétré dans cette église, j'ai eu comme un choc. Oh, Enrique a juste un problème. En fait, chaque fois qu'il pénètre dans un lieu où il y a du bois, bah, vous savez, c'est quelqu'un qui portait déjà à la fin des années 60 le catogan, qui avait une allure de 68 heures, comme c'était la mode, qui avait une femme qui était somptueuse, véritablement indienne par sa corpulence et son teint mat. Lui avait plutôt l'air d'un Autrichien avec les cheveux blond, un air un peu canaille. Et chaque fois qu'il pénétrait dans un endroit où il y avait des poutres, et chez les Tarasques, dans le Michoacán, il y a partout du bois, tout est construit en bois. Tupátaro, c'est un miracle. Vous pénétrez à l'intérieur et toute la voûte est en berceau, tout est en bois, de grandes planches de bois mal jointoyées, mais qui par contre ont toutes été peintes entre le 16e et le 17e siècle, et qui devient véritablement une chapelle Sixtine. Ça a dû être le coup de foudre pour Enrique, mais chaque fois que je l'ai vu pénétrer dans cette église, il fait un geste curieux. Vous savez, quand on cherche sous sa chemise quelque chose qui bouge, vous voyez ce que je veux dire? Vous pénétrez à l'intérieur avec votre main, puis vous allez pincer juste à l'endroit où il faut, et il vous sort la petite puce de bois, parce que lui aime bien les puces, et que les puces aiment bien Enrique. En l'occurrence, c'est un geste coutumier, et ça lui arrive des milliers de fois, ça lui est arrivé des centaines de fois, chaque fois qu'il peignait un bout de plus de cette chapelle Sixtine, qu'il la restaurait, eh bien, obligatoirement, il y avait encore quelques puces supplémentaires qui s'amusaient avec lui. Or, Enrique est quelqu'un qui aime l'art et qui a, sans aucun fond, complètement repeint ces centaines de mètres carrés de cette petite église de Tupátaro. Si j'en parlais, eh bien, c'est surtout pour évoquer cette façon de vivre et de fonctionner dans l'état de Michoacán. Je parlais des produits de la terre et je parlais surtout d'églises. Parce que c'est vrai que quand on pénètre dans ces églises, on remarque que les vierges possèdent encore quelques-uns des attributs qui correspondaient à cette divinité lunaire. Les Tarasques ont toujours mélangé la lune et la vierge. Et à l'intérieur de l'église de Tupátaro, il y a des soleils peints au plafond, il y a des anges, et puis tout à coup, des choses qui paraissent beaucoup plus précolombiennes. C'est-à-dire qu'on remarque que de nos jours, lorsqu'on pénètre dans une des petites églises de village où vivent les Indiens, eh bien, il y a des offrandes, il y a encore des offrandes qui ressemblent étrangement à celles qu'on faisait aux anciennes divinités. Et puis, au moment où il y a eu la fin tragique un peu de Tenochtitlan, de Mexico-Tenochtitlan, le 13 août 1521, eh bien, les Tarasques vont avoir une réaction très curieuse. Immédiatement, ils vont désirer, non pas appuyer, mais aider l'Espagnol, afin de se soumettre non seulement à Hernán Cortés, mais surtout d'essayer de protéger leur royaume, déjà comme ils l'avaient fait à l'époque aztèque. C'est-à-dire, systématiquement, les Tarasques sont restés en dehors de l'histoire. Ils ont lutté contre tout le monde en créant involontairement une sorte de tache blanche sur le territoire précolombien que les Aztèques avaient envahi. C'est un peu la même chose que pour les Tlaxcaltèques, qui eux aussi ont aidé Cortés à son arrivée et qui représentaient un peu l'exception. Alors, ce qu'on sait, en tout cas, c'est que malheureusement, Hernán Cortés va envoyer des émissaires très rapidement pour prendre possession de leur royaume au nom de la couronne d'Espagne, puisqu'ils étaient alliés. C'était beaucoup plus facile sans guerre. Et quand on parle de cet auteur, c'est un auteur anonyme que j'évoquais tout à l'heure pour les relations des choses du Michoacán, il nous dit que les Indiens d'abord vont juger les conquistadors de façon assez curieuse. Ils avaient une vision sur les Européens, ils les appelaient des Tucupacha. Les Tucupacha, comment est-ce qu'on pourrait le traduire? Ce sont des dieux, bien sûr, mais ils les appelaient aussi Teparacha. Vous voyez, là, je suis en train de parler Tarasque un peu. Eh bien, ça signifie des gens trop grands, des géants, des hommes beaucoup trop grands. Ils pensaient que les Espagnols étaient immortels, et en fait, plus tard, ils les appelèrent chrétiens, mais ils disaient même qu'ils étaient descendus ou venus du ciel. Et puis, il y avait une chose qui les avait beaucoup touchés, ces Tarasques, c'était les habits que portaient les Espagnols. Ils pensaient que c'était non pas du tissu, mais des peaux d'hommes. La peau d'hommes étrangers, bien sûr, ou qui venaient d'ailleurs, parce qu'eux-mêmes étaient habitués à ce que leurs prêtres revêtent de temps à autre, durant les fêtes, la peau même des sacrifiés. Et ils trouvaient que c'était une matière assez curieuse. On imagine aussi, bien sûr, ces cuirasses et ces différents matériaux, le cuir même que les Espagnols utilisaient, qui était travaillé de façon très différente de tout ce qu'ils portaient eux-mêmes. Et ils appelaient les chevaux des cerfs. Alors, on peut comprendre pourquoi ils les appelaient des cerfs. C'était le seul animal avec lequel ils pouvaient faire une comparaison. Et ils pensaient que les crinières étaient certainement quelque chose qui avait été posé sur l'animal, comme si c'était des postiches, comme si les chevaux avaient des perruques et une queue qui était elle-même une fausse queue. Et ils pensaient surtout que ces chevaux, lorsqu'ils étaient montés par les Espagnols, eh bien c'est eux qui leur disaient de quel côté ils devaient se diriger. C'est un peu comme s'il y avait une sorte de dialogue entre l'animal et l'homme. Il y avait même une sorte de considération qui les faisait prendre pour des centaures au moment où ils étaient joints, collés l'un à l'autre sur la selle. Quand on pense à cette soumission, qui était le cas au début, qui était quand même assez pacifique, et puis surtout cet accueil très favorable qu'ils avaient réservé aux Espagnols, et surtout aux missionnaires qui vont suivre derrière, eh bien les Tarasques Je dirais pour avoir une période de vexation, il y a même des cruautés qui vont suivre. Et il faut en parler parce que quand aux alentours de 1529, c'est-à-dire à peu près 7 à 8 ans après la conquête de la ville de Mexico, il y a un certain Nuño Beltrán de Guzmán qui va traverser tout le Michoacán. C'est une expédition militaire qui devait partir carrément du côté nord, du côté nord-ouest du Mexique. Et lui va arrêter le dernier roi. Un roi chez les Tarasques, ça s'appelle un Calzoncin. Le Calzoncin de Michoacán, c'était Sinsincha, qu'on appelait aussi Taganchuan. Il va être assassiné, il va être véritablement, je dirais plus qu'assassiné, il va être déchiré véritablement par ce conquérant qui ne pensait qu'à une chose. Je vous ai dit que la métallurgie était courante, il y avait des bijoux, il y avait des choses intéressantes, il y avait de l'or, il y avait des richesses, et c'est la seule chose qui va intéresser Nuño Beltrán de Guzmán. Alors, l'accusation de trahison que les Espagnols vont porter à ce... Enfin, on va accuser ce pauvre roi, eh bien je dirais que c'était simplement pour s'emparer de ce fameux trésor qu'on suppose avoir été celui des Tarasques. Et on dit qu'il a été intentionnellement caché. Il y a toutes sortes de légendes qui courent encore dans cette région du lac de Pátzcuaro. Alors, il y a eu bien sûr des tortures, il y a eu... Cette façon d'assassiner ce roi, on l'a fait traîner vivant, attaché à la queue d'un cheval, une vision qui a dû être absolument horrible. Ensuite, il a été étranglé, et le pire de tout pour un Indien, son corps a été brûlé. Alors il y a eu quelques fidèles, des vassaux qui vont recueillir pieusement ce qui restait de ce pauvre roi et descendre, ce qui était terrifiant puisque son corps ne pourrait pas reprendre l'énergie vitale et retourner à l'énergie vitale. On va l'enterrer là, justement, à Pátzcuaro. Et c'est ainsi que va mourir le dernier souverain des Tarasques. Et la nouvelle de sa mort, eh bien, on le sait par les chroniques, on imagine très bien la scène. L'Indien, lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il a de la peine, eh bien, il y a d'abord la tristesse, certainement, et puis, par rapport à cet Espagnol cruel, une crainte. Une crainte qui dure encore aujourd'hui. Lorsqu'il vous regarde dans les yeux, il les baisse au bout de quelques secondes. Mais la Providence existe aussi et elle va envoyer au Michoacán peut-être une des figures qui m'a le plus fasciné, une des plus pures, une des plus intègres. Oh, comment vais-je l'appeler? Un apôtre du Nouveau Monde? Oui, c'est peut-être le nom qu'on pourrait donner à Vasco de Quiroga. Vous vous rappelez du village de Quiroga avec son marché? Eh bien oui, il nous rappelle qu'il est venu un magistrat. Il était envoyé par l'audience royale, tout simplement pour connaître la région et ensuite apaiser les troubles qui vont suivre ce passage du conquérant. Et puis, lui va être touché, comme on l'est tous lorsqu'on visite le Michoacán. Il va être séduit par le charme de ce pays tarasque, par la douceur, par l'intelligence aussi, l'intelligence de ses habitants. Et quelques années plus tard, eh bien, il va renoncer. Il va renoncer à ce qu'on pourrait appeler l'habit, la toge, pour devenir pêcheur d'âme. C'est le premier évêque du Michoacán. Vasco de Quiroga, il va consacrer sa vie à ses Indiens, ceux qu'il appelait ses fils. Et c'est le premier évêque qui va justement animer. Il y a une volonté, quelque chose d'absolument indomptable chez ce bonhomme. Vous savez qu'il va lutter pour faire vivre quelque chose de simple, la pureté du christianisme. Attention, quand je parle du christianisme de ce XVIe siècle, c'est vraiment quelque chose d'assez primitif, c'est quelque chose qui ressemble au fondement de ce qui est né là en Europe à travers les mouvements franciscains. Et puis il va organiser, il va créer des hôpitaux, c'est lui qui va créer Santa Fe de la Laguna, vous savez ce petit village au bord du lac de Pátzcuaro. Et il va tenter de réaliser... Alors, ce sont des idéaux de l'époque. Il y a un idéal humanitaire qui nous rappelle ce grand personnage d'Angleterre, Thomas More. Thomas More qui va inventer l'utopie, qui va écrire l'utopie. Et puis ces hôpitaux, ils vont servir de modèle à toutes sortes d'institutions qui sont semblables, qui vont se développer. Une sorte de véritable réseau. Il a inventé toutes les activités sociales. Il va imaginer une nouvelle forme d'économie, une nouvelle forme religieuse. Vasco de Quiroga, c'est quelqu'un qui est charitable. Il a une œuvre absolument incroyable. Et oh, c'est beau quand on entend encore la première fois où une vieille femme m'a parlé de Vasco de Quiroga. Elle m'a dit, vous savez, on a toujours la nostalgie de Tata Vasco. Tata, c'est vraiment le père au sens spirituel, le père au sens affectif. Et quand ces tarasques parlent de ces souvenirs qui ont des fois, bien sûr, par rapport à leur mémoire, à ce côté oral, 400 ans, ça n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est assez curieux de penser qu'il a gardé cette influence bénéfique d'abord, et puis une influence extrêmement durable sur les Indiens de la région. Alors, il y a eu au XVIe siècle un zèle apostolique absolument incroyable. On a été peut-être un petit peu trop loin. On a voulu détruire tous les temples, on a voulu détruire toutes les idoles, on a voulu, en fait, condamner tous ces rites, ces superstitions. On les appelait diaboliques, en tout cas c'était le cas des premiers prêtres, des premiers moines, des premiers missionnaires. Et ces missionnaires du Michoacán, eh bien, ils vont faire quelque chose d'assez nouveau, justement. C'est là peut-être que l'exception, il faut la signaler parce qu'elle est unique. Ils vont essayer d'encourager le talent artistique. Vous vous rappelez de la laque de tout à l'heure? Eh bien, c'est vrai que les Tarasques étaient très habiles dans l'art, par exemple aussi de ce qu'on appelait des mosaïques de plumes. La plumasserie, c'est un art assez curieux, un travail extrêmement fin. Il faut coller des milliers de plumes pour faire un tableau, pour créer une image qui elle-même brille comme cela, comme brille le plumage d'un oiseau. Il faut créer ces mélanges de coloris. Et puis il y avait ce travail de la céramique et surtout le travail du bois. Alors ce sont les religieux qui vont petit à petit pousser ces Indiens et ils vont faire quelque chose au service de l'église d'abord. Il y a bien sûr ces temples, ces églises comme celle de Tupataro qui vont être décorées. Et puis on va même créer toutes sortes de tableaux ou d'images saintes avec des milliers de petites plumes. On va faire quelque chose qui est unique au Michoacán. C'est continuer à fabriquer avec de la pâte extraite du cœur Vous savez, à l'intérieur de la tige du maïs, il y a une pâte extrêmement douce, extrêmement fine. Et avec cela, eh bien, on a créé des images d'une légèreté absolument incroyable. Des saints ou des Christs articulés qui ne pèsent que 300 ou 400 grammes parfois, qu'on peut sortir en procession un peu comme on le faisait à l'époque précolombienne pour les grandes, grandes fêtes. Et c'est vraiment une perfection presque diabolique. Quand pour la première fois, on vous autorise à décrocher un Christ ou une statue et puis de la soupeser, eh bien, un enfant de 4 ou 5 ans peut partir et la porter tout seul dans une procession, même si l'objet fait 1,80 m de hauteur. Et les Indiens vont rapidement apprendre d'abord à s'occuper des offices, bien sûr, et obligatoirement, ils vont construire, sur la demande des Espagnols, quelque chose qui est aussi unique. Je ne connais ça nulle part dans le monde. Ce sont des orgues. De splendides orgues. Et non seulement elles sont belles, mais elles ont cette qualité du Michoacán. Elles sont faites entièrement de bois. Au lieu d'utiliser de l'étain pour, par exemple, les comment est-ce qu'on appelle ça, les tuyaux d'orgue, eh bien là, on va les faire en bois et on va véritablement pouvoir rivaliser avec les orgues qui sont en étain. Alors, quand je parle du climat, bien sûr, on pense à ces forêts que j'évoquais. Il y a donc cette obligation de reprendre les vieilles traditions, le vernissage à la laque et tout ce qui est artisanat va être repris comme une forme d'art populaire qui est conservée encore aujourd'hui au Michoacán. Ce qui est fantastique, c'est quand on fait le tour du lac de Pátzcuaro, qui est quand même assez grand, à peu près, je ne sais pas, de visu comme ça, c'est un lac qui a une forme assez naturellement arrondie, et même si les rives sont un peu tortueuses, mais ça fait à peu près la moitié du lac Léman quand même. Et finalement, on remarque que chacun des petits villages, chacune des petites communautés a gardé depuis l'époque de Quiroga une spécialité que les missionnaires ont laissée à chacune de ces tribus, à chacun de ces villages. Et petit à petit, les anciennes croyances vont se transformer. On pourrait dire qu'à la fin du siècle dernier, il y a quand même déjà une grosse acculturation après 3 siècles. Mais dans certaines régions, et surtout dans la Sierra, eh bien, il y a des rites et des croyances préhispaniques qui vont être conservées. Et c'est surtout la façon étrange d'avoir toujours... Les Tarasques ont des maisons qui ressemblent un peu au chalet de nos Alpes, des maisons entièrement en bois, souvent sur pilotis, avec les greniers qui se trouvent à côté. Et très souvent, dans ces greniers, on trouve des idoles qu'on appelle des tarés. Ce sont des sortes de divinités tutélaires et qui s'occupent naturellement de la protection. Elles sont là pour la protection du maïs. Et on avait aussi des objets secondaires qui étaient consacrés au soleil. J'en ai vu encore quelques-uns et petit à petit, eh bien, on va essayer de supprimer tout cela. Mais il y avait des choses curieuses. Les Indiens disent toujours qu'on n'a jamais le droit de mentir parce que notre Père, le Soleil, écoute tout ce qu'on dit. Donc ces petites statues étaient là simplement comme messagers. Et on pouvait par exemple égrener un épi de maïs juste avant le coucher du soleil. Mais c'était la dernière minute. Dès que la nuit tombait, c'était interdit de sortir des grains du grenier parce que à la tombée de la nuit, le maïs dort et personne n'a le droit de le réveiller. Quand une vieille indienne vous dit ça pour la première fois en vous disant « je ne peux pas prendre mes grains de maïs ou mes épis à une autre heure que lorsque le soleil est là », c'est assez impressionnant. Et il y a à peu près une soixantaine d'années, peut-être un peu plus, 80, il y a un savant qui est venu du nord de l'Europe, je crois que c'est un Norvégien, qui s'appelait Karl Lumholz, et il avait retrouvé, j'ai relu plus ou moins ses différentes études sur les coutumes qui existaient encore derrière le syncrétisme religieux, et il avait remarqué aussi que les prêtres, ou en tout cas tous ceux qui fonctionnaient encore à la façon ancienne dans les villages tarasques, avait interdit à tous les fidèles, par exemple un simple prêtre de village qui avait des origines indiennes, interdisait à tous les croyants d'être trop excessif vis-à-vis des saints et surtout de ne pas dépenser trop d'argent. Parce que quand on voit comment fonctionnent les fêtes tarasques, on se rend compte qu'on se ruinait simplement pour orner, pour offrir quelque chose à toutes ces statues. Et on interdisait surtout les danses nocturnes. Parce que quand on a vécu pour la première fois des fêtes chez les tarasques, on se rend compte que non seulement il y a la musique, non seulement il y a les masques, non seulement il y a une sorte d'exubérance, mais il y a aussi l'ivresse, bien sûr, et tout ce côté païen qui revient, je ne sais pas, une simple fête, l'occasion, par exemple, de refaire le toit de l'église, et tout à coup, vous avez tout le village qui se met en branle et qui repart dans ses idées païennes. Alors, les Tarasques, Je dirais que quand on les voit au moment des processions, devant ces saints qui passent, on se rend compte que non seulement ils offrent tout ce qu'ils ont, mais également ils reprennent cette ancienne coutume de jouer avec l'encens. Chacun arrive avec un encensoir, ils offrent cela un peu comme un aliment. Non seulement par l'odeur, mais la fumée, c'est vraiment ce qui correspondait à la nourriture des divinités. Ça monte gentiment vers le ciel. Actuellement, bon, il reste plus grand-chose de cette grande religion tarasque, mais il y a toujours, en tout cas dans la campagne, cette impression que les superstitions se sont conservées. Et on voit surtout lors de pratiques médicales ou de sorcellerie et de tout ce qui se fait encore. Par exemple, le culte des morts, qui est assez curieux, dont on parlait pour l'île de Ranitzio, quand on voit le côté fervent, malgré les milliers de touristes qui viennent sur cette île, on se rend compte que tout cela est conservé avec le culte des morts existe encore, et que les aliments qui leur sont donnés le jour de la fête sont tout aussi importants qu'il y a 1000 ans. Il y a quelque chose aussi qui m'a touché lorsqu'on visite les petits villages un peu perdus dans la montagne, c'est que systématiquement on retrouve encore partout des petites huttes spéciales qui sont des sortes de bains de vapeur. Et il y a toujours un côté rituel, il y a toujours cette habitude d'être guéri et d'avoir des pratiques de sorcellerie afin d'être soigné à l'intérieur même de ces petits réceptacles et de ces bains. Dans la Sierra Madre, la nature elle-même est assez curieuse. On a l'impression que tout a été bousculé par le côté tellurique. Il y a souvent des tremblements de terre. Et on imagine aussi que, parce que c'est volcanique, tout cela peut se crevasser d'un moment à l'autre. Et c'est vrai que le culte qu'ils avaient conservé, en fait, au du feu, il revient à tout moment. C'est assez curieux quand on partage cette idée du volcan, du courroux qui pourrait sortir comme cela de la terre, lorsqu'on pense à ce souffle du feu qui sort du ventre même de la terre, eh bien on comprend mieux comment en 1943 a pu naître tout à coup au milieu d'un champ ce fameux volcan qui a fait rêver tout le Mexique. Voyons peut-être la scène. Vous êtes dans un champ de maïs, vous êtes le paysan, et tout à coup vous voyez vos mottes de terre qui bougent. On a l'impression de rêver, mais c'est vraiment comme cela qu'a commencé ce volcan Paricutín, qui en quelques jours est monté. Il a détruit le village, un petit village comme ça, de San Juan Parangaricututiro, qui était vraiment un endroit qui était d'un seul coup comme cela, en quelques jours, enseveli par la lave. Et puis juste à côté, il reste juste le clocher maintenant, le clocher de l'église, qui seul émerge là des pentes même de ce volcan qui est monté très vite et très haut. C'est la seule relique qui reste parmi ces blocs de lave noire en 1943, comme cela, avec une motte de terre soulevée, un volcan est monté vers le ciel. L'éruption du Paricutín a recouvert de lave, a recouvert de cendres, des étendues incroyables, immenses, Pratiquement le tiers du Michoacán était recouvert par des cendres et finalement toutes les terres fertiles ont disparu. Il y a de nombreuses familles qui ont dû émigrer. Il fallait chercher des endroits plus propices, bien sûr. Et les Tarasques d'Angawan, un des villages les plus endommagés, à mon avis, par la poussière volcanique, bon, ils avaient cherché du travail ailleurs, ils avaient cherché d'autres terres à cultiver. Il y avait juste quelques vieux qui avaient refusé d'abandonner l'endroit. Et petit à petit, les champs se sont mis à revivre. Le maïs a recommencé, les petits plants sont sortis comme par miracle, tout vert comme cela, au milieu de ces mottes de terre qui maintenant étaient devenues grisâtres. Quand on traverse aujourd'hui encore, la route asphaltée, impeccable, traverse la grande coulée de lave, une des dernières qui est surgie au Michoacán, lorsqu'on s'approche du Paricutín, on sent encore cette catastrophe qui paraît encore toute récente, parce que certaines parties du champ de lave n'ont pas du tout, à cause des acides, permis, au contraire, comme ailleurs, cette fertilité nouvelle. Et finalement, on a l'impression que tout est sorti de terre il y a quelques heures. Alors, les Tarasques de la montagne, eh bien, puisque je parlais de la terre, ils cultivent sur les terrains communaux, ils ont réussi à sauver quelques endroits. Bon, les Métis ont tenté de prendre les meilleures parts du Michoacán, qui était certainement une des terres les plus riches du Mexique. Et là, on les retrouve avec du maïs, bien sûr, mais aussi l'exploitation du bois, de leur forêt. Ils bâtissent leur maison, ils fabriquent quelques objets d'artisanat. Mais l'exploitation de toutes ces richesses, là je parle de la forêt, bien sûr, de toute la Sierra. Et il y a quelques années, il y a eu des compagnies, d'énormes compagnies financières qui se sont installées, qui sont venues de la capitale, et des familles métisses en général qui petit à petit, comme par ailleurs, ont véritablement pris le monopole de toute la région, et presque tout l'artisanat traditionnel, tout ce que l'Indien était capable de produire avec sa modestie, eh bien tout cela a eu tendance à disparaître. Et quand je pense à des grands centres, lorsqu'on situe le Michoacán, cet état qui est peut-être le plus beau du Mexique, quand on pense à Uruapan, quand on pense à Tzintzuntzan qu'on évoquait tout au début, quand on pense à Pátzcuaro, eh bien là il y a une population exclusivement métisse aujourd'hui qui y vit, et elle se consacre surtout à la commercialisation de tous ces objets que l'Indien de la Sierra ou d'ailleurs est capable de produire. Je pense à la laque, je pense à la céramique. Et les Indiens se limitent en général à un tout petit commerce qui ne va pas vraiment au-delà de leur exigence et de leur façon de vivre. Ce qui est impressionnant aussi quand on traverse ces différents villages, et surtout lorsqu'on va sur les îles du lac de Pátzcuaro, c'est de voir comment un Indien d'aujourd'hui a gardé cette immense modestie qui lui a été imposée au XVIe siècle. On les voit pêcher, oh, il faut bien les chercher aujourd'hui, on les voit pêcher avec peut-être un des filets les plus étranges que je connaisse. Ce sont des filets qui ont une forme de papillon, comme s'il y avait deux grandes ailes comme ça, avec le tressage qui permet de laisser glisser cela dans l'eau, avec un arc de cercle extrêmement souple et qui permet ainsi d'aller chercher surtout le poisson, ce petit poisson, un poisson blanc, et qui sert de monnaie d'échange, soit frais, soit séché. Il l'échange contre du maïs, et puis on voit ces canaux qui passent d'un village à l'autre et qui essaient de trouver tous les produits dont ils ont besoin. Il y a encore quelques années, dans la plupart des marchés de la région, tout se faisait par troc. C'est un des derniers endroits du Mexique où j'ai connu vraiment des échanges qui pouvaient durer des heures sans aucune pièce de monnaie, sans aucun billet. Simplement un peu de bois contre un peu de poisson, un poulet contre un objet d'artisanat, enfin une façon extrêmement curieuse. Les femmes aujourd'hui vont peut-être à Pátzcuaro et sur les autres marchés voisins parce qu'elles ont besoin de sel, de produits qui sont plus rares. Et là, on voit maintenant intervenir petit à petit la monnaie. Les personnes âgées, eh bien, elles sont là au bord du lac. Elles sont en train de raccommoder les filets qui sèchent. Elles sont devant les maisons avec... Les villages sont étranges. Les petits cheminements qui amènent dans le village ne changent pas lorsqu'on pénètre dans le village. Alors on a l'impression que la route reste aussi étroite et les maisons sont très très serrées les unes contre les autres, ce qui fait que les gens sont pratiquement dans la rue à longueur de journée. Il y a par exemple les enfants, les jeunes filles qui sont là et qui continuent à travailler leur filet ou éventuellement à tisser. Et sur les rives, les femmes, elles sont là au contraire pour s'occuper de leur linge entre quelques roseaux sur une simple pierre, et pendant les pauses, bien on les voit parler de leur vie quotidienne. Il y a une façon très très animée. Au moment où un groupe de femmes se met à parler de quelque chose d'important, eh bien on a l'impression qu'immédiatement tout va se mettre en route. C'est un peu comme une sorte de caquettement. La langue tarasque est assez curieuse et en général on parle des prochains événements, mais surtout et presque toujours de la prochaine fête ou de la dernière fête où les femmes s'occupent beaucoup de l'église et des saints, et c'est souvent le centre des conversations. Et puis à une certaine époque de l'année, vous avez bien sûr un phénomène qui est typique des grands lacs. On voit arriver par exemple ces oiseaux migrateurs. Et les tarasques chassent encore le canard sauvage avec... C'est un objet assez curieux, c'est un lance-harpon comme cela, la fitzga, c'est peut-être ce que déjà à l'époque de la préhistoire on utilisait au Mexique. Et vous savez, c'est une, je ne sais pas quel est le terme en français, mais c'est un objet de bois qui permet de lancer la javeline de façon beaucoup plus violente. C'est un peu la prolongation du bras. Et au centre de l'île de Janitzio, eh bien, c'est un peu comme un phare. On a l'impression qu'on retrouve le seul endroit qui soit visible de partout par rapport au lac de Pátzcuaro. Janitzio, on voit comme quelque chose d'un peu anachronique, une statue géante qui a été consacrée à Morelos. Morelos, c'est vraiment le côté patriotique, c'est cet homme qui a lancé l'indépendance, qui a donné son nom à l'État, et plus exactement à la capitale du Michoacán, Morelia. Et c'est une statue de béton que tous les touristes aperçoivent dès qu'ils prennent un bateau. Et après avoir applaudi, je ne sais pas si vous étiez à votre hôtel, peut-être à Pátzcuaro, vous aurez eu le soir la danse des viejitos, les petits vieux, avec leurs masques grimaçants d'espagnols, avec leurs vieux chapeaux, avec cette façon très courbée, comme si vous étiez bossu avec une simple canne de bois. Une façon de vous moquer, bien sûr, des conquistadors et de ces vieux espagnols qui possédaient la terre et tous les biens de la région. Et les Indiens, ils vous regardent de façon peut-être un peu bienveillante, il y a une sorte de gentillesse intéressée, ils essayent d'échanger quelques produits, ils savent bien que vous êtes gringo, que vous venez peut-être d'ailleurs ou des États-Unis. Et de façon générale, rien ne dérange. Vous pouvez grimper jusqu'au sommet, voir la statue de Morelos, acheter quelques souvenirs et puis vous reprendre votre bateau pour retourner en fait à Pátzcuaro. Et tandis que le bruit du moteur se perd là dans le lointain, le soir descend sur le lac et une sorte de voile mystérieux, une sorte de transparence des eaux qui frémissent, une sorte... Mais pourquoi ? Pourquoi ne pas songer à ces idoles qui sont là peut-être au fond du lac, à cette déesse lunaire ? Les groupes de barques glissent silencieusement vers l'île, les filets reposent à l'avant et vous donnent l'aspect bizarre d'insectes, comme des insectes aquatiques. Et solitaire, parmi les bouquets de roseaux, vous avez un dernier pêcheur. Un pêcheur qui cherche une carpe ou un canard. Thank you.